Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Chaque mois sur RCN, Gwenaël, Anissa et Alexis décryptent l'actualité internationale. Où va le monde ? Sur RCN.
Bonjour, vous écoutez la première de Où va le monde, l'émission qui chaque mois décrypte les grands enjeux internationaux. Pour cette grande première, donc, nous avons choisi pour le mois de novembre le conflit au Soudan et la COP 30. Donc, je suis en compagnie de Gwenaël.
Bonjour.
Et d'Anissa.
Bonjour.
Donc, commençons par le Soudan. Alors, pour comprendre la situation au Soudan, il faut remonter à il y a plus de 10 ans. C'était en 2014. C'était Omar el-Béchir qui était au pouvoir. Il tenait le pays d'une main de fer depuis 1989. En 2003, il y a une guerre qui a éclaté dans le Darfour, une région à l'ouest du pays. S'en suivent 17 années de guerre jusqu'en 2020. En 2014, el-Béchir dépêche les forces de soutien rapide sur le terrain. C'est une milice créée quelques mois plus tôt par Mohamed Hamdan Dogolo, dit Emeti. Leur idéologie repose sur le nationalisme arabe au détriment des autres ethnies du Soudan. Elles sont déployées au Darfour dans le cadre de l'opération Été décisive dans l'objectif de mettre fin à la guerre. Les FSR se livrent alors à des massacres et à des viols de civils et des déplacements de population. Toutes ces attaques visant des groupes ethniques non arabes seront souvent qualifiées de génocide par de nombreuses personnes. L'ONU parle quant à elle de crimes contre l'humanité. Les FSR traînaient ensuite une réputation d'armée violente et sanguinaire. En avril 2019, après la révolution populaire qui a éclaté en 2018, un coup d'état militaire renverse Omar el-Béchir. Un conseil militaire prend la tête du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan en est nommé président. Malgré la destitution d'el-Béchir, des protestations persistent contre le régime en place. Le 3 juin, sur ordre du conseil militaire au pouvoir, les forces de soutien rapide dirigées par Emeti dispersent un sit-in au cœur de Khartoum, la capitale du pays. Ils le font à l'aide de gaz lacrymogène mais également de balles réelles. L'opération fait plus de 100 morts, leur corps a été jeté dans le Nil et des centaines de civils ont été arrêtés. La situation au Soudan se stabilise ensuite, un premier ministre est nommé, Abdallah Hamdok, un économiste de renom. Al-Burhan est quant à lui président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan, soit le chef de l'État. Mais la stabilité est de courte durée. Le 25 octobre 2021, Al-Burhan organise un coup d'État à l'aide de l'armée et de Emeti. Abdallah Hamdok est emprisonné. Al-Burhan devient alors le seul et unique chef de l'État. Mais des tensions et des rivalités montent entre d'un côté Al-Burhan et l'armée régulière et de l'autre côté les FSR de Emeti. La question est l'intégration de la milice dans l'armée. La tension finit par éclater le 15 avril 2023. Les FSR attaquent l'aéroport de Khartoum, le palais présidentiel et plusieurs infrastructures militaires. C'est le début d'une guerre qui dure depuis plus de 2 ans entre les deux forces armées. Aujourd'hui, les FSR contrôlent tout le sud-ouest du pays, dont la ville d'El-Fasher, capitale du Darfour et stratégique du pays qu'ils contrôlent depuis fin octobre 2025. Après un siège de 18 mois, la guerre est souvent qualifiée de guerre d'usure et de guerre d'anéantissement par les experts, tant sa violence est inouïe. C'est aussi une guerre qui se déchaîne sur les civils, qui sont largement un dommage collatéral de la guerre. Gwen, est-ce que tu peux nous parler justement de l'impact sur toutes les populations civiles ?
Alors, au Soudan, il y a une catastrophe humanitaire d'une ampleur inouïe qui se déroule dans l'ombre. Deux villes désormais coupées du monde. El-Fasher, la capitale du Darfour du Nord, et Kadoukli, le cœur du Kordofan du Sud. Là-bas, la famine gagne du terrain à une vitesse alarmante. Plus de 21 millions de personnes, soit 45% de la population, vit aujourd'hui dans une insécurité alimentaire aiguë. L'ONU souligne que, dans ces régions, l'accès à l'alimentation est désormais presque impossible. Cette situation est accentuée par le blocage des convois humanitaires par les groupes rebelles. Depuis la prise d'El-Fasher par le FSR le 26 octobre, la crise humanitaire a viré au cauchemar. Dans cette ville assiégée, les civils subissent une violence au-delà de l'inimaginable. Massacres, pillages, violences sexuelles, tortures, enlèvements sont le quotidien de cette population exposée. Ceux qui parviennent à fuir entament un voyage interminable vers Tewali. Cette zone, déjà saturée, accueille près de 650 000 personnes. Dans cet endroit, les conditions de vie restent un combat. Le manque d'eau, de nourriture et d'abri sont omniprésents. Au Soudan, la population n'a plus qu'un seul choix, fuir pour survivre. Selon l'ONU, plus de 300 000 personnes ont quitté le pays en 2025 pour tenter de trouver refuge en Éthiopie, en Ouganda, au Congo ou encore au Kenya. À l'intérieur du territoire, la situation n'est guère mieux. On compte déjà près de 2 millions de déplacés. Au total, ce sont 10 millions de Soudanais qui ont dû abandonner leurs terres pour échapper au chaos de la guerre civile.
Comme l'a dit Gwen, l'ONU est impliquée dans ce conflit. Anissa, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils ont fait ?
Exactement, puisque maintenant on va parler de l'ONU, donc l'organisation internationale fondée en 1945. Et à ses déclarations sur le sujet, on va se poser la question justement de quelles ont été les déclarations faites par l'ONU sur cette situation au Soudan. Car c'est en lisant justement leurs déclarations qu'on comprend le basculement progressif puis brutal vers ce qui est devenu l'une des pires crises humanitaires du monde. Alors on va commencer par parler du premier basculement où l'ONU parle d'une crise majeure pendant la première année. Donc en 2023, l'ONU reste quand même assez mesurée. Elle alerte, elle observe, elle condamne, mais les mots restent très prudents. On parle de détériorisation, d'aggravation de millions de personnes dans le besoin. Les agences humanitaires OCHA, UNICEF et PAM répètent que la situation se dégrade dangereusement, que des millions de vies sont affectées, mais ce n'est pas encore une déclaration globale. Pas encore un verdict sur l'ensemble du pays. À ce stade, l'ONU décrit mais ne classe pas encore la crise. Le véritable choc, c'est quand l'ONU reconnaît que le Soudan devient la plus grande crise alimentaire du monde. C'est un premier tournant qui arrive en 2024, lorsque plusieurs branches de l'ONU constatent que la faim atteint un niveau inédit. Le Programme alimentaire mondial déclare que le Soudan est, je cite, « en passe de devenir la plus grande crise alimentaire au monde ». L'UNICEF parle d'une situation jamais vue dans l'histoire récente du Soudan. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme évoque quant à lui une crise sans précédent. Ces déclarations sont fortes, mais ce n'est toujours pas la déclaration officielle qui marque l'histoire. L'ONU n'a pas encore posé le mot clé, pas encore, parce que le moment clé justement, c'est quand l'ONU déclare officiellement la crise humanitaire au Soudan. C'est justement la phrase qui marque un avant et un après dans cette situation. Le moment où l'ONU ne se contente plus d'alerter, mais de déclarer officiellement, je cite, « Le Soudan connaît la pire crise humanitaire de déplacement au monde ». Cette phrase apparaît dans leur communiqué le 15 avril 2025. C'est là que l'ONU classe officiellement la situation. Ce n'est plus une alerte parmi tant d'autres, c'est un diagnostic global, historique et assumé. Et ce jour-là, l'ONU reconnaît publiquement que le Soudan est devenu une des pires crises humanitaires la plus grave de la planète. Et ce n'est pas tout. C'est pendant la même période que les agences onusiennes ajoutent le seul pays au monde en situation de famine confirmée, une crise humanitaire d'une ampleur sans précédent. En bref, à ce moment-là, en avril 2025, qui constitue la déclaration formelle de la crise humanitaire par l'ONU, le point où les experts justement ne parlent plus d'aggravation ou de risque, mais d'une crise totale. Et après cette déclaration, l'ONU tire la sonnette d'alarme quasiment tous les mois. En avril 2025, le ton change complètement, les textes deviennent presque des SOS officiels. Le haut-commissaire aux droits de l'homme parle d'un risque imminent d'atrocité de masse. Le HSR évoque la plus grande crise de déplacement au monde. Le chef de l'humanitaire de l'ONU décrit le Darfour comme l'épicentre mondial de la souffrance humanitaire. Et l'ONU demande un embargo sur les armes, appelle à des financements d'urgence, alerte sur l'effondrement total de l'accès aux soins et prévient que la famine va s'étendre encore en 2026. Et en novembre 2025, une nouvelle phrase choc tombe. Plus de 300 millions de personnes au bord de la survie. Les mots deviennent plus lourds, plus directs et plus désespérés. Alors depuis, toute leur prise de parole n'ont fait que de se développer, s'amplifier, se répéter. Et on peut conclure sur ce constat de l'ONU par une phrase qui décrit bien leur bilan sur la situation. C'est celle de Tom Fletcher, le chef des affaires humanitaires de l'ONU, qui dit, je cite, « Nous n'entendons pas les cris, mais alors que nous sommes réunis ici, l'horreur continue ».
Merci Gwenaël, merci Anissa. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour comprendre ce conflit au Soudan. Conflit peu couvert par les médias malgré tous les enjeux humanitaires qu'il représente et tous les dégâts qu'il cause sur les civils.
Chaque mois sur RCN, Gwenaël, Anissa et Alexis décryptent l'actualité internationale. Où va le monde ? Sur RCN.
Le deuxième sujet que nous avons choisi de vous expliquer, c'est la COP30, donc la fameuse conférence des parties, sa 30e édition du sommet qui chaque année réunit des centaines de dirigeants internationaux, d'énormes délégations pour trouver des solutions à l'enjeu climatique. Gwenaël, comment elle s'est déroulée cette COP30?
Alors, du 10 au 21 novembre 2025, c'est au Brésil, dans la ville de Belém, en plein cœur de l'Amazonie, que la COP30 a posé ses valises, sous la présidence du diplomate brésilien Andrea Correa do Lago. Cet événement a permis de placer au centre la forêt amazonienne, un écosystème vital pour 50 millions de personnes et pour 400 communautés autochtones. Cette édition souhaite remettre en lumière la nature, comme le prouve la création du Tropical Forest Forever Facility, un fonds destiné à mobiliser des capitaux privés afin de protéger et restaurer les forêts tropicales humides. Une manière de rappeler que la lutte pour le climat se joue aussi là où tout respire, sous la canopée. Mais attends, c'est quoi la COP ? La COP, c'est tout simplement la conférence des parties, comme tu l'as dit. C'est la grande réunion annuelle rassemblant 196 parties ayant signé la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Ce rassemblement a été créé en 1992 à Rio, au moment où la communauté internationale a admis que l'activité humaine jouait un rôle majeur dans le dérèglement climatique. Depuis, chaque année, les États et leurs représentants se retrouvent pour faire le point sur les décisions prises auparavant et sur les nouvelles négociations à venir. En clair, la COP, c'est le rendez-vous annuel où le monde tente de recadrer son avenir climatique. Cette année, l'édition avait un goût particulier. Elle se tenait 10 ans après la COP21 qui a vu naître les accords de Paris. Ces derniers sont un traité international historique. Mais au Brésil, pour la COP30, l'ambiance était davantage tendue. Cette réunion est synonyme d'impasse diplomatique. La validation officielle n'a été arrachée que de justesse le samedi 22 novembre. Mais alors, le bilan final ? Eh bien, il est nettement mitigé. Aucune décision contraignante, aucune feuille de route mondiale pour la sortie des énergies fossiles. Pour les pays les plus vulnérables, déjà frappés de plein fouet par les canicules et les inondations, il faudra se contenter d'objectifs flous, voire interprétatifs. La COP permet quand même de réaffirmer l'objectif de limiter à plus 1,5 degré Celsius le réchauffement atmosphérique par rapport à l'ère pré-industrielle. Les pays développés, eux, se sont engagés à tripler leurs finances d'ici 2030 pour aider les nations en développement à s'adapter. Au cœur de la forêt, les négociations ont cherché un chemin. Reste à voir si, dans les mois qui viennent, les promesses chuchotées en Amazonie deviendront une réalité.
Merci Gwenaëlle, on comprend que cette conférence des parties, elle a un bilan qui est très mitigé, qui n'a pas mené à grand-chose finalement. Et il faut aussi préciser que c'était une édition assez spéciale pour un aspect particulier, c'était celui des autochtones, les peuples autochtones qui étaient largement mis en avant. Parce que c'est pas pour rien si le président du Brésil, Lula, souhaitait organiser la COP30 à Belém. Il a choisi cette ville aux portes de la forêt amazonienne pour mettre à l'honneur deux grandes causes, la protection de la biodiversité et celle des peuples autochtones. Il voulait en effet montrer l'injustice climatique et les frais que doivent subir ces peuples du fait du changement climatique. Le président Lula, il a toujours voulu mettre les autochtones en avant. Par exemple, lors de son investiture en 2023, il avait monté la rampe du palais présidentiel à côté du cacique Raoni, un chef de tribune autochtone de l'Amazonie. Il avait alors déclaré que les autochtones ne sont pas des obstacles au développement, ils sont les gardiens de nos fleuves et de nos forêts, une part essentielle de notre grandeur en tant que nation. C'est donc dans cette continuité qu'il a souhaité les mettre à l'honneur à la COP30. C'est donc pour ça que plus de 900 représentants étaient présents lors du sommet. C'est un nombre qui n'a jamais été égalé et ça leur a permis de faire entendre leur culture et leurs revendications, mais aussi de faire comprendre leur rôle dans la gestion des forêts et de la biodiversité. Malgré cela, de nombreux autochtones se sont dit exclus des décisions parce que leur présence, elle aurait été que symbolique et ils n'auraient pas vraiment été dans le processus décisionnel justement. C'est pour ça que le 11 novembre, la colère des peuples d'Amazonie elle a éclaté et un groupe de 300 militants a tenté de forcer les portes de la COP30. Certains ils ont même réussi à pénétrer dans l'enceinte équipée de pancartes avec de nombreux slogans comme « Notre pays n'est pas à vendre ». Ils réclamaient la reconnaissance de leur territoire traditionnel, mais aussi l'arrêt de la déforestation et de certains projets d'infrastructures pétrolières ou minières qui menacent les forêts. Leur objectif, il était clairement de faire une opération choc afin d'être plus entendus et considérés que jamais. Mais finalement, c'est un bilan en demi-teinte pour tous les peuples autochtones, parce qu'ils n'ont jamais été aussi entendus et aussi considérés au sein des négociations. Et ils ont également été la cible d'un traitement médiatique qu'ils n'ont jamais eu avant. Le monde entier a pu entendre parler d'eux. Malgré cela, ça n'a conclu à aucun accord concret pour les protéger de la déforestation et de l'injustice climatique. Donc ce bilan mitigé de la COP30, Anissa, quelles ont été les réactions face à lui ?
Il y a eu des réactions pas très positives vis-à-vis de, de cette COP30, puisqu'on va venir maintenant parler justement de ces réactions qui ont marqué le paysage politique et social après 2 semaines de négociations. On parle au Parlement européen où un débat sous tension a suivi cette COP30. En effet, à Strasbourg, les députés européens se sont immédiatement saisis du sujet et la tonalité, elle est claire, hein, la déception domine clairement et l'Europe fait son autocritique. Les eurodéputés ont dénoncé l'échec des pays à s'entendre sur une feuille de route pour sortir des énergies fossiles, un point majeur qui a tout simplement disparu du texte final. Et pour beaucoup, l'Union européenne porte une part de responsabilité. La députée suédoise Emma Wessner du groupe Renew Europe l'a dit sans détour, je cite, « Nous avions besoin d'un accord satisfaisant 10 ans après l'accord de Paris et qu'avons-nous obtenu? Le soutien européen à la feuille de route fossile était trop faible et nous étions désorganisés. Pourquoi les pays de l'Union européenne ont-ils signé des propositions différentes à des moments différents ?» Une charge directe donc qui pointe un manque de coordination interne. Et ce n'est pas tout, puisque certaines réactions visent directement la présidente de la Commission européenne, puisqu'il y a eu des critiques également sur Ursula von der Leyen. Au cœur de la polémique, ses propos tenus lors du G20 en Afrique du Sud, où elle a déclaré que l'Union européenne ne luttait pas contre les énergies fossiles, mais contre leurs émissions. Une formulation qui a été très très mal perçue. Très très mal perçu, surtout après Belém. L'eurodéputé néerlandais Bas Eickhout du groupe des Verts l'explique clairement. Il nous dit « À Belém, l'Europe soutenait la transition énergétique et en Afrique du Sud, on se demandait s'il ne valait pas mieux parler des énergies plutôt que des combustibles fossiles eux-mêmes. Sincèrement, la coordination au sein de la Commission laisse à désirer. Une critique directe ici qui souligne le double discours européen perçu par certains. » Et du côté de la société civile, la colère des activistes est également montée, puisque pendant que les responsables politiques débattent, les réactions de la société civile sont tout aussi franches. L'activiste climat Camille Etienne résume un sentiment très largement partagé. Elle nous dit, je cite, « Si c'est un fiasco, c'est aussi parce que les personnes en première ligne n'ont pas été écoutées. » Elle parle ici justement des peuples autochtones dont parlait Alexis, extrêmement présents et actifs durant cette COP30, des communautés qui vivent au cœur de l'Amazonie et qui subissent de plein fouet la déforestation et qui ont pris la parole massivement au cours des discussions. Leur message, c'est qu'on ne peut pas parler de climat sans écouter ceux qui protègent déjà les territoires. Pour l'activiste, leur invisibilisation dans l'accord final, illustre l'un des échecs majeurs de cette COP. Finalement, que ce soit du côté des politiques ou des civils, la déception a touché plus ou moins tout le monde.
Gwenaëlle et Anissa, merci beaucoup. Vous comprenez donc maintenant tous les enjeux autour de cette COP qui s'est montrée très décevante, malgré le fait qu'elle se montrait assez unique, notamment avec l'engagement des peuples autochtones, mais aussi 10 ans après les accords de Paris. Elle a déçu beaucoup et des réactions se sont fait entendre. C'est le bilan à retenir de cette COP30. Vous avez écouté la grande première de Où va le monde ? Merci beaucoup.